des habitantes et des habitants d'Audincourt, regroupés au sein de l'association Engrenage Artistique, initient en 2025 une commande d'œuvres à l'artiste Laura Molton autour du patrimoine du quartier des Autos, en particulier l'église du Sacré-Cœur et les maisons Castor. La commande vise à raviver cet héritage en lien avec les valeurs de solidarité, de transmission et de bien commun. Elle entend faire mémoire, donner à voir un patrimoine peu visible et ouvrir un nouveau récit collectif. Les commanditaires imaginent une œuvre immatérielle, ancrée dans l'histoire du quartier, mais ouverte à d'autres formes de lecture, en lien avec les habitantes et habitants, les écoles et les nouvelles générations. Pilotée par la Société des nouveaux commanditaires, dont le 19, Centre régional d'art contemporain de Montbéliard et médiateur relais, ce projet artistique ambitieux voit le jour dans un premier temps sous la forme d'une résidence territoriale, puis celle d'une œuvre à venir en 2026. Ce podcast retrace les premiers temps d'échange entre Laura Molton et les actrices et acteurs de ce quartier, dont l'histoire locale riche invite à mettre en lumière cet héritage porteur de logiques de décroissance intelligente et joyeuse.
Donc, votre papa, il était castor.
Il était castor, c'était le plus jeune des castors, voilà. Ouais, ouais.
Donc l'histoire, c'est que, si vous voulez, quand vous regardez toutes les maisons, elles se ressemblent à toutes. Et l'histoire de la rue des Castors, elle s'appelle comme ça parce qu'en fait, chaque fois qu'il y avait une maison qui était construite, ben, tous les voisins aidaient la nouvelle maison à se construire et ainsi de suite. Donc elles se sont toutes construites de cette manière-là, d'où le fait qu'elles s'appellent rue des Castors.
Ça a vraiment été une histoire, une aventure de 40 familles qui ont acheté ensemble, des terres qui étaient des pâturages. Hein.
Parce que les familles du quartier, c'est des familles qui sont arrivées. Elles n'étaient pas comme dans un village où ils étaient là depuis des générations. Donc ils sont tous venus. Hein. Il faut savoir qu'il y a 100 ans, il n'y avait quasiment rien ici.
Situés dans un territoire ouvrier façonné par l'industrie Peugeot, les quartiers des Autos se développent en 1945 et 1960. Il porte l'histoire d'un siècle de mutations sociales, urbaines et culturelles. C'est un lieu d'accueil, de construction collective et d'initiative citoyenne, marqué par l'autoconstruction, la mixité sociale et les expérimentations culturelles. L'église du Sacré-Cœur, érigée entre 1949 et 1951 par les habitantes et habitants avec la complicité d'architectes et artistes majeurs tels que Maurice Novarina, Jean Bazaine et Fernand Léger, ainsi que les maisons Castor, lieux de vie autoconstruits, en sont les symboles.
Veux-tu bâtir une maison ? Viens à la réunion à 16h ce soir à la chapelle. Amitié.
Louis Prenel, ça date de 49.
À la base, après-guerre, dans les années, enfin en 49, on va dire pour simplifier, les gens avaient du mal de trouver un hébergement. Et l'investigateur, ça a été... Louis Prenel, qui avait une volonté, on peut dire, c'est un prêtre bâtisseur, parce qu'il a fait du laïc, donc les castors, il a fait le Sacré-Cœur, il a rénové l'église Saint-Bénigne à Pontarlier, donc c'était un homme de valeur et qui était proche des gens.
Dès 1945, les jeunes couples ne trouvaient pas à se loger, parce qu'il y avait plein de bâtiments détruits et autres. Une solution a été trouvée au niveau du monde catholique, en observant, en cherchant s'il y avait eu des expériences dans d'autres lieux français. Et en fait, le curé Prenel s'est aperçu que dans la région de Bordeaux, à Pessac, là où il y a actuellement l'université, ils étaient en train de vivre une expérience étonnante. Les citoyens, les gens s'étaient groupés pour acheter des terrains ensemble et créer des sortes de lotissements avec le principe suivant. C'était souvent des personnes qui ne pouvaient pas avoir des prêts bancaires parce qu'ils étaient trop pauvres, qui ne pouvaient pas tout seuls acheter des terrains et qui n'avaient pas l'argent suffisant pour faire bâtir une maison. Donc l'idée a été de faire ce qu'on appelle l'autoconstruction. Le principe est simple, les personnes qui voulaient construire une maison se regroupaient pour acheter ensemble le matériel, donc moins cher. Ils essayaient de trouver un chef de chantier autour d'eux, ce qui s'est passé au Audincourt, bénévole. Et achetant le terrain ensemble, les diverses professions qui se révélaient parmi eux, par exemple électricien, menuisier, maçon, charpentier et autres, chacun disait « je donne tant d'heures de travail à travers mon métier ».
Forcément, ce n'est pas pour rien que ça s'appelle la rue des Castors.
Il y en a qui avaient déjà la profession menuisier, tout ça, mais il y en a beaucoup qui n'avaient pas de profession liée au bâtiment. Et donc, par exemple, comme mon papa et bien d'autres, ils se montaient sur les toits, ils apprenaient à se lancer les tuiles, à les récupérer. Donc, ils prenaient des dangers et ils ont appris sur le tas.
C'est-à-dire qu'il
n'y avait pas des personnes en marge.
De l'après-guerre.
Oui,
l'après-guerre, c'est ça. Comme ils avaient tout perdu, automatiquement, ils essayaient de retrouver la solidarité et tout. Et puis ça s'est construit comme ça, et puis ça s'est resté comme ça.
C'était une famille, en fait.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'était une famille. On était tous, on se retrouvait ensemble, tout ça.
Donc chacun a participé à la construction, à creuser les fondations, à couler les sous-sols, etc. Et donc ça a été cette volonté-là. Alors pourquoi il y a eu cette bonne entente? Parce que c'est dans la difficulté qu'on crée les liens, et c'est dans ces 2000 heures, les week-ends, que des liens se sont forgés.
C'était convivial, quoi.
Ouais. C'est vrai qu'il y avait des beaux moments de solidarité, vraiment d'investissement concret.
Les menuisiers ont fait tout ce qui était huisserie, les maçons, le gros œuvre, les charpentiers, les toitures, etc. Oui. Et donc, ils ont créé presque une communauté, en fait. Donc, les maisons ayant été à peu près établies, ils ont tiré au sort quelle était la première maison qui allait être construite. Et l'ensemble des 40 futurs propriétaires s'engagent à donner, par exemple, 2000 heures de travail en échange du fait que la collectivité des castors achète les matériaux, paye les terrains, achète les matériaux, etc. Et donc, c'était une expérience de solidarité, mais aussi un pari, parce que le premier servi, il avait beaucoup de chance. Les autres devaient attendre. Et il fallait que le premier et les suivants continuent à être solidaires des autres. Mais ça s'est plutôt globalement bien fait.
Quand on avait besoin d'eux, ils répondaient. D'accord. Ils venaient. On a passé, même l'été, Moi, j'ai fait tout. On a tout refait les classes sur un week-end. On était toujours, je sais pas, une quinzaine chaque fois pour repeindre, retapisser une classe. On faisait ça en un week-end. C'était réglé. Parce que chaque fois que je lançais un appel, j'avais toujours plein de monde. Et ils donnaient un temps fou, quoi. On a fait des kermesses, on sentait des gens qui avaient envie.
Oui, d'accord.
Qui avaient envie de donner du temps.
Il fallait dépanner pour un truc ou pour un autre.
Par exemple, les repas de cantine, tout ça.
Oui, voilà, à un moment donné, la dame qui cuisinait pour la cantine est tombée malade, elle a été hospitalisée. Du jour au lendemain, il fallait vite faire quelque chose. Alors, moi, j'y étais, quoi. Il fallait bien... Et voilà, j'ai fait 3-4 mois, je crois.
Oui.
Voilà, j'étais la petite main partout, là. J'ai fait n'importe quoi.
Quand il y avait un gros camion qui arrivait et qu'il fallait décharger, et quelqu'un qui se mettait dans la cour ici, qui donnait un grand coup de sifflet, et il y a une vingtaine ou une trentaine d'hommes qui venaient décharger le camion.
Et à l'apéritif, les gens étaient contents de se retrouver. Il y avait du monde. Ouais, hein,
oui,
on se retrouvait. Quand c'était des apéritifs, on était 200 personnes.
Ah oui, oui, c'était impressionnant.
Ça se finissait toujours par des repas. On faisait la fête chaque fois, en fait. Ça se finissait toujours comme ça.
D'accord.
On a senti cette solidarité des gens. Et chaque fois qu'on a voulu faire quelque chose, il y a toujours eu une réponse. Les gens ont toujours répondu présent.
Les premiers ouvriers, c'était des gens du cru, qui étaient originaires plutôt d'un monde agricole, qui étaient laboureurs.
Peugeot, ayant besoin de beaucoup de personnel, des ouvriers, des techniciens, etc., avec cette première usine qui est juste derrière l'école des autos, qui était la toute première usine où ils ont fabriqué des voitures. Et c'est pour ça qu'il y a eu création d'un quartier dans un lieu qui était agricole. Peugeot a fait un peu un appel d'air dans l'ensemble de la région, des gens du Haut-Doubs, d'Alsace, etc. Et il a fallu construire des maisons. En gros, pour que vous situiez, quand le père Prenel est venu en 1946 reprendre cette partie de la paroisse qui était aux Forges, il y avait 500 familles catholiques qui dépendait du territoire, en gros, du quartier des autos. 500 familles. Et sur les 500 familles, il a réussi à fédérer autour de lui 120 familles qui ont dit « Banco, on accepte une construction d'une église, mais on accepte en donnant du travail, hein, en donnant des heures de travail bénévoles. Mm-hmm. » Et l'aventure a commencé comme ça.
Les gens possédaient déjà un savoir-faire technique aussi, puisque souvent, ils étaient en même temps forgerons. Et donc, il y a une population qui est essentiellement protestante, qui arrive de Suisse, notamment.
Le quartier a eu la chance d'avoir un curé ici qui avait dit, moi, ma paroisse, c'est les gens d'ici. C'est pas des gens rêvés quelque part. Or, qu'est-ce qu'ils font ? Ils travaillent chez Peugeot, ils travaillent chez Japy, ils travaillent... voilà. Il faut resituer l'époque, hein. C'est le début du christianisme social. T'as un Louis Prunel qui dit, ça c'est mon peuple. Population qui, à l'époque d'ailleurs, élisait une mairie communiste. Il n'y avait aucun problème là-dessus. De toute façon, comme déjà il était dans un terrain protestant, alors une mairie communiste, ce n'était pas un problème. À un moment donné, la paroisse, les mecs de la paroisse étaient sollicités pour faire ce qui coûtait beaucoup de temps, beaucoup de sous, mais pas de la technique. Les fondations, les bancs, eh bien, c'est de l'appropriation, ça. Je veux dire, pour eux, c'était chez eux. Enfin, mon père, il était chez lui, ici.
Les premières vagues d'émigration, en fait, ça a été principalement les Italiens, donc des Piémontais, qui, eux, avaient une très bonne maîtrise technique pour tout ce qui était creusement de galeries, terrassement, mines. Et donc, les premiers sont venus travailler dans les mines, mais également, par exemple, quand la voie ferrée s'est installée, ce sont ces gens-là qui ont percé les galeries, qui ont fait de grosses œuvres. Et la plupart, donc, ont travaillé aussi bien dans les mines que dans les voies ferrées, et après, dans des usines telles que les forges, etc. Et puis après, on a d'autres vagues d'immigration qui arrivent. Hein. Alors, toujours des Italiens, qui vont plus investir les usines. Ensuite, les Polonais, hein, qui sont venus très nombreux, jusqu'après, dans les années début 70, beaucoup de Yougoslaves, beaucoup de différents pays. Et voilà, petit à petit, ça a constitué une population un peu étonnante. Hein.
Il y en a qui viennent du Maghreb, pas mal de familles. Et puis principalement, c'est les familles qui viennent de Turquie.
Il y a un couple mixte, franco-turc. Il y a donc nous, on est quatre familles turques, une famille yougoslave.
Ne rigolez pas avec mon italien, mais il y a quand même du français si vous voulez lire. Il y a les dates, allez-y peut-être à la lumière.
Pologne, Allemagne, Haute-Marne, Basilia, c'est Bâle.
Basilia.
Belgique, Allemagne, Neuchâtel, Paris, Arles, Bavant, Montpellier, Gare, Allemagne, Besançon, diocèse Besançon, Allemagne.
Vous notez tout en fait?
Curiosité, tout simplement.
Là, on est chez Santina. Quand je t'ai croisée avant-hier, tu m'as raconté, tu m'as expliqué que tu t'occupais des fleurs de l'église.
Pour économiser, je m'occupe un peu de l'église.
Et donc ici, elle voit les gens qui arrivent à l'église et c'est par là qu'elle leur donne les clés.
Parce que Santina, c'est la gardienne des clés.
Voilà, exactement, les gens.
Et votre prénom, ça veut dire quelque chose ? C'est pas comme les sentinelles ?
Aucune idée. J'ai fabriqué ça pour prendre la clé. J'ai une clé là et une à la cave. Comme ça, je n'ai pas à courir. Que quand je vois les gens, je donne la clé. Et puis là, je la donne depuis ici.
Parce ok. Que... machine. Donc, tu as construit une canne avec un petit sac, comme ça, quand tu n'as pas besoin de descendre, en fait.
Non, parce que quand la clé, elle tombe dans la haie, qu'il y a des orties, ça sentira qu'elle vienne la chercher. Bravo. Et ça, c'est très pratique.
C'est pratique. Génial. C'est vous qui l'avez cousue ?
Oui. Oui, j'ai fait un peu couture, donc automatiquement, je me suis dit... Et puis ça, les gens, ils rigolent. Et je suis beaucoup photographiée. J'aime bien quand je reçois les gens avec le sourire. Donc la porte est toujours ouverte. Vous venez. Mais si vous n'avez pas souri, je vous mets dehors. Hein. Je peux vous dire la franche vérité. Vu mon âge, ce que j'ai fait, c'est un médicament pour moi. Tout simplement. Et c'est vrai.
Et ici, les gens viennent dans une église catholique. Ils sont toujours étonnés, enfin, un peu désorientés, parce que ce bâtiment ne dit pas tout de suite ce qu'il est. Et il n'y a pas immédiatement les critères de cette église. Les confessionnaux, ça y est. Vous savez où ils sont? Ils sont planqués. Vous allez dans toutes les églises, c'est vraiment là. C'est confesse ta foi, puis après on verra. Hein. Mais là, ils sont dans le mur. Et les gens, ils cherchent des trucs d'orientation comme ça. Puis il n'y a pas. Il y a tout. Il y a tous les éléments de la passion, mais ils ne sont pas dans l'ordre. Il n'y a pas de chemin de croix. Les orthodoxes sont bien, les protestants sont bien, n'importe qui est bien. Et je crois que ça, c'était la volonté du père Prenel aussi. C'était un lieu. C'est pour ça qu'il ne l'a pas inondé de statues. C'est-à-dire que chacun doit recréer son histoire, s'il a envie d'avoir l'histoire. Sinon, ben, il fait comme tout le monde, il contemple, il est heureux, il est... Voilà. C'est pour ça qu'il était curé d'ici. C'était clair. Il fallait un lieu où il rencontre les gens, que ses vicaires et lui-même allaient rencontrer dans les quartiers. Et puis on se retrouvait tous ici.
Finalement, c'est à la fois dans le quartier et ça naît du quartier. Et en même temps, on crée un espace qui n'est pas le quartier, qui est un autre espace, un espace pour les gens qui puissent être un non-lieu ou un lieu qu'on remplit comme on le souhaite, en fait.
Hier, quand on s'est baladé dans le quartier des autos, ça m'a vachement marqué. Il y a plein de sortes de bidouilles, inventions sur les ferronneries, ferrailleries. Par exemple, il y avait une gouttière qui avait l'air d'avoir été pimpée, enfin, je sais pas, réassemblée. Elle finissait en espèce de gargouille avec un bec ouvert.
Alors, vous êtes en plein dans la culture ouvrière. Il faut savoir qu'avant que les pare-chocs, je suis obligé d'en parler comme ça, avant que les pare-chocs soient en plastique, ils étaient en inox. Donc, il y avait des chutes plus ou moins provoquées, des fois, mais il y avait des chutes. Il y avait les débuts de coil, on ne pouvait pas les utiliser, les fins non plus. Donc, qu'est-ce qu'on en faisait? Eh bien, on en faisait des bidouilles, on en faisait des chenaux, on faisait des trucs comme ça. Et là aussi, des chenaux, c'est ce qui amène l'eau de votre toit à travers les engins. C'est des chenaux chez nous. Mais c'est pareil, cette espèce de modus operandi entre ce qui est autorisé, ce qui est interdit, et en même temps ce qui est l'expression de l'inventivité des gens. Parce que dans une usine, on a besoin du crâne des gens. Donc, la capacité à récupérer des chutes d'inox, ça participait de la technicité, en fait. Donc, dans le quartier, vous pouvez avoir un tas de trucs comme ça, et puis voilà, quoi. Voilà, c'est pour ça que vous voyez beaucoup de choses bizarres.
Et la construction de cette église était proche de l'état d'esprit de la construction des castors.
Et c'est ce qui a intéressé Fernand Léger. C'est-à-dire que c'est le monde ouvrier qui fait, et c'est pour ça qu'il a accepté le projet, parce que quand il est venu ici, il voyait que c'était les gens qui mettaient la main à la pâte. C'était pas comme Notre-Dame, toutes choses étant égales par ailleurs.
C'est oui. Cet élan de solidarité que moi j'ai trouvé, puis que je crois qu'on n'a jamais retrouvé ailleurs. Il y a plus cet esprit d'entente, de bénévolat, de participation.
Avant, les gens vivaient plus en vis-à-vis, en fait.
Et il y avait plus de convivialité directe. Hein.
Oui, chez mes parents, ils avaient choisi de ne pas mettre de portail. Donc, c'était ouvert. Il y avait juste un petit muret. Et autrement, tout était ouvert. Quoi. Tout était visible. Ben, c'était ce qu'ils souhaitaient. Quoi. Voilà. Mais ce n'était pas le cas de tous.
Il y a, à l'intérieur des castors, encore une unité, je crois. Vous disiez que ça disparaît un peu, mais il y a encore quelque chose.
Ben,
ouais, c'est plus difficile.
Moi, j'ai toujours eu pour principe que quand on achète une maison, on achète aussi ses voisins. Mais bon, c'est vrai que quand on va sonner aux portes, les gens nous regardent comme si on était des témoins de Jéhovah. Du coup, voilà, ça ne se fait pas. Cet esprit-là d'entraide, J'aurais bien aimé que ça continue, mais malheureusement, les voisins, on ne peut pas leur adresser la parole.
Est-ce que ce n'est pas la société d'aujourd'hui qui est comme ça, ou est-ce que tu penses qu'il y avait déjà à cette époque-là des gens très individualistes?
Mais après, c'est la volonté des gens. En réalité, il ne faut pas porter la responsabilité sur la société, parce qu'en réalité, tous ceux qui sont autour de la table, on l'a fait, la société. Elle est ce qu'elle est, mais chacun apporte sa pierre. Et la société, c'est les gens qui la font. Voilà, c'est tout. Et après, c'est notre volonté à nous d'aller et de faire. C'est toujours le premier pas qui compte. Moi, j'ai construit, j'ai fait une maison. Moi, je fais de la culture castor. C'est mes parents, mon père, mon grand-père qui ont fait la maison. Moi, j'ai fait une maison, je suis passé par un architecte et j'ai fait ma maison. Le plus dur que j'ai eu, c'est la première pierre, c'est le premier placo-plâtre. C'est le premier pas. L'aller à la rencontre des gens, c'est passer de ce croisement où il n'y a pas le regard à un croisement où on se regarde, puis après, on passe au-delà du regard. Bonjour.
L'explication de la première pierre, c'est... Alors vous connaissez hein, la pose de la première pierre. Mais là, ils avaient fait une mise en scène. Ils ont écrit les noms des 120 familles qui se sont engagées financièrement.
Et c'est eux qui ont garanti le premier prêt. C'est pas rien. Hein.
Et qui ont travaillé aussi. Hein. Tous les noms, prénoms des 120 familles sont écrits sur un manuscrit qui a été scellé dans la première pierre posée. Et c'était en présence de l'évêque, etc., oui, voilà. des autorités. Voilà. Et donc ça a marqué ces personnes.
Elle est où cette première pierre
là? Non, on ne sait pas où elle est.
Ah,
alors, ouais. Non, on mais suppose.
On peut la chercher, hein, finalement.
Dommage que j'ai jeté les papiers du tonnelier là-bas. Parce que j'avais des papiers là, c'était jaune, hein, si je voulais. Mais on pouvait encore comprendre ce qu'il faisait, ce qu'il ne faisait pas. J'ai tout jeté. On garde, pour quoi faire? Après, qu'est-ce qu'ils vont faire, mes enfants? Ils prennent une benne, puis ils mettent tout dedans.
Alors aujourd'hui, c'est difficile, parce que nos aïeux sont partis, et que les personnes qui arrivent, c'est, je dirais, sans être péjoratif, c'est des consommateurs. C'est-à-dire qu'ils veulent un logement, ils achètent un logement. C'est leur cocon à eux. Alors qu'avant, c'était une communauté.
Oui, mes parents sont décédés, donc nous, on n'est plus dans le coin. Donc on cherche à vendre la maison. D'accord. Voilà.
Et du coup, ça ne vous fait pas trop de peine de la laisser à cette maison?
Ben si, c'est quand même difficile. Il y a un côté très affectif, puisque c'est une maison que mon papa a construite de ses mains avec d'autres personnes. Et en plus de ça, mon frère et mon aîné, là, dans cette maison-là.
On a connu quelques castors d'origine. Et c'est vrai qu'on a organisé la fête des voisins. C'était bien à cette époque-là parce qu'on avait la transmission de l'histoire des castors. Par contre, maintenant que tout le monde a changé, c'est plus difficile. C'est pas comme avant où on pouvait ramener tout le monde et puis échanger. Là, c'est complètement différent. Et finalement, on reste trois voisins avec qui on s'entend bien parce que c'est difficile d'organiser et d'avoir un maximum de monde. Donc, on a fini par abandonner.
Voilà, mais bon, on s'entend quand même bien oui. entre voisins.
Oui.
C'est simplement qu'au niveau des rassemblements, tous ne suivent pas. Voilà.
Je me demandais s'il y avait un signe, ou je ne sais pas, une marque qui a été apposée sur chaque maison pour signifier que c'était une maison castor ou pas du tout.
Eh bien non, justement, il n'y a rien de tout ça. Et on se disait qu'on aimerait bien qu'il y ait quelque chose, justement, une pancarte au niveau de la rue ou quelque chose qui remémore tout ça, quoi. Ouais.
Ah oui, en fait, là, il y a juste le nom de la rue.
Voilà, il y a juste le nom de la rue.
Rue des Castors.
Une plaque, au moins, à l'entrée des Castors. Pas mettre juste rue des Castors, qu'on mette des dates, au moins. C'est un minimum, quoi, de mettre au moins la date de construction. Et puis l'idée générale, quoi. Ici, 42 maisons ont été construites solidairement, parce qu'il n'y a rien. Il y a rien.
On sait très bien que dans 10 ans, 20 ans, ce sera encore plus difficile d'avoir une mémoire de l'origine de ce lieu.
Non, les nouveaux n'ont pas forcément l'histoire du castor, tous ne connaissent pas l'histoire du castor, ça c'est sûr. Ouais. En fait, c'est ceux qui connaissent, c'est ceux qui sont libres, avec lesquels on est en lien, et donc c'est nos proches voisins, mais autrement...
Je pense que tous ne connaissent pas. Il ouais. n'y a rien d'indiqué du tout par rapport à l'histoire des castors. Et voilà, on aimerait bien qu'il y ait quelque chose de spécifique pour que tout ça ne s'oublie pas.
Mais un jour, il y aura un arbre généalogique des castors. Ça fait déjà tout le monde, parce que là, les parents, plus c'est 5, 6 enfants, 7 enfants parfois par famille. Mais c'est, nous, on se rappellerait des gens qu'on a croisés. Et on mettrait des prénoms, on a mis des fois que des noms. Donc c'est, je pense qu'on peut le faire avec Google, avec les gens qui sont en vivant, tout ça. Donc je pense qu'on peut faire l'arbre généalogique.
Oui, tu vois, nous, on a trouvé des petites photos. Ça, c'est oui. Jean-Marc qu'on a scanné. Oui. On va essayer de, bah, de les centraliser tous, voilà. Parce qu'on a encore des recherches voilà. à faire.
Dans des villes françaises, les quartiers sont équipés de panneaux avec des QR codes qui racontent l'histoire du quartier. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait se développer pour les castors en particulier. Et puis avec des parcours, c'est très à la mode les histoires de parcours, hein, hein, de parcours de visite, etc., ou mémoriels.
Même la voie qui peut aller avec, hein, parce qu'il y a une classe vidéo qui a été faite par un castor, M. Roth, et là il fait le tour du quartier et il détaille les gens, il montre les gens qui sont toujours vivants grâce à cette cassette.
Voilà, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on passe pour se réapproprier notre histoire. Il faudrait dire, ici, on rentre dans l'histoire.
Autrement, je trouvais super que toi, avec Sandra, qui est l'autre voisine, qui avait œuvré pour faire leur pas des voisins, quoi. Hein, c'est parti de vous aussi.
Et bah, puis, c'est ça, c'est la transmission de l'histoire des castors ouais. qui était intéressante. Et puis, le fait d'organiser de nouveau tous les ans ça, ouais. D'avoir des histoires, des anecdotes, c'était bien. Ouais. C'était pour retransmettre, mais bon, après...
Mais ça se fait quand même, la preuve, ça se fait encore. Ouais. Ça va se faire de toute façon, ça ne sera peut-être pas le fait des voisins, mais le fait de partir
oui,
de l'histoire.
Oui, oui. Oui.
C'est bien que ça se fasse.
On a vécu une journée de rassemblement entre tous, là, où c'était vraiment, j'ai envie de dire, une communauté qui continuait, quoi. On a passé une journée extraordinaire. On avait investi le parking par le rassemblement. Il y avait... plein d'enfants, plein de bambins, plein de gamins, plein de parents, plein de personnalités. Et c'était une journée assez grandiose. Quoi.
Et puis après, ben, ça pourrait être intéressant d'avoir un projet de construction de cabane ensemble pour être dans le concret, pour avoir le plaisir de connaître, de construire son propre habitat et peut-être déclencher des choses pour plus tard chez les enfants.
Le quartier vivait, mais à travers les cris des enfants, le bruit des enfants. Toutes les dames du quartier disaient, ça grouillait de bruit. Mais c'était un essaim d'abeilles qui montait.
C'est mon papy. Avant, il travaillait à l'église. Donc, vous voyez, jusqu'à la maison là-bas, quoi. Ben, pas après le... Le
tu fais quoi, Robin?
Ben elle nous demande de décrire le quartier parce qu'elles ne viennent pas d'ici.
Dans l'esprit des bâtisseurs d'hier, cette commande s'inscrit dans une dynamique actuelle de création partagée, au croisement de l'art, de la mémoire et du vivre ensemble. Elle invite à faire dialoguer le passé et le présent pour nourrir les imaginaires et contribuer à la société de demain. Merci aux commanditaires Edwige et François Dumel, François Nagelessen, Geneviève Pastre et Brigitte Rimbert, avec l'association Engrenage artistique, patrimoine et transmission.